Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, en ce dimanche après l'Ascension, méditons quelques instants sur la vertu d'espérance qui est le fruit de ce deuxième mystère glorieux de notre rosaire. Et puis nous ferons une application à Sainte Jeanne d'Arc et puis à la situation présente. Et tout d'abord, transportons-nous dans la maison d'Alençon, maison natale de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est un beau pèlerinage à faire, ce n'est pas très loin d'ici. Lorsqu'on entre dans la maison, on se trouve dans le vestibule, et devant soi, on a un escalier assez raide, qui monte en tournant, dont on ne voit pas le sommet. Cet escalier conduit aux chambres du premier étage. Dans l'une de ses chambres est née Sainte Thérèse. Alors, voulant parler de la vertu d'espérance, Sainte Thérèse fouille dans ses souvenirs d'enfance et elle se rappelle, lorsqu'elle était toute petite à Alençon, qu'elle était au bas de l'escalier. Elle était si petite qu'elle ne pouvait même pas monter la première marche et elle voulait bien aller en haut où parlaient papa et maman. Alors, le seul moyen pour elle, eh bien, a été par ses supplications, par ses appels, d'attirer l'attention de ses parents. Et Monsieur Martin descendait et avec ses bras, hop, la montait au premier étage. Et Sainte Thérèse de faire l'application à la vie spirituelle. Ayant le désir de devenir une grande sainte, elle réalisait qu'étant la faiblesse et l'impuissance même, elle était bien trop petite pour gravir l'escalier de la perfection. Et puis, voyant que dans le siècle d'invention où elle se trouvait, on venait de mettre au point les ascenseurs pour gravir les escaliers sans difficulté, c'était une grande nouvelle. Alors elle avait trouvé à son tour un ascenseur, mais cette fois pour aller au ciel. Elle l'avait trouvé dans la Sainte Écriture, d'abord dans le livre des Proverbes. « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. » Et puis dans le livre d'Isaïe, comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous porterai sur mon sein et je vous bercerai sur mes genoux. Ah, dit Sainte Thérèse, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente et moi, je veux chanter vos miséricordes. Eh bien, nous avons ici toute la doctrine de l'espérance chrétienne. D'abord, il faut faire une constatation de départ. Il est impossible d'arriver au but de notre vie avec nos seules forces humaines. D'abord, parce que notre destinée est au-dessus de notre nature. Voir Dieu face à face, vivre de la vie intime et du bonheur de la Sainte Trinité, parvenir à cela est quelque chose qui nous est totalement, absolument disproportionné. L'apôtre Saint Paul dit que nous ne sommes pas capables de nous-mêmes, comme venant de nous-mêmes, de la moindre pensée profitable pour notre salut. Et puis le deuxième obstacle pour parvenir au but de notre vie, eh bien, c'est notre fragilité. Parce que le trésor de la foi et de la grâce que nous avons reçu à notre baptême, Saint Paul nous dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Des vases de terre, donc des vases qui peuvent se briser facilement dans la guerre quotidienne que nous devons mener contre notre nature blessée, contre le monde, contre le démon. Alors, devant cette constatation de départ, il y a deux attitudes opposées, et deux attitudes qui sont des attitudes erronées, évidemment, qui ne nous mèneront pas au but. D'abord, le découragement. On se décourage devant un défaut que l'on n'arrive pas à combattre. On dit « c'est trop difficile, je n'y arrive pas, je retombe sans cesse ». On se décourage aussi devant les difficultés de la vie actuelle. L'éducation des enfants qui est plus difficile qu'aujourd'hui, qui est plus difficile qu'autrefois, avec la pression du monde. Le fait qu'il faille toujours marcher à contre-courant du monde qui nous entoure. Le fait de cette crise dans l'Église qui n'en finit pas. Alors ce découragement peut être dangereux s'il s'installe. Dans un premier temps, il peut conduire à s'éloigner des sacrements. C'est plus la peine que je me confesse, de toute façon, je retombe toujours. Et puis un jour, par désespoir, on peut finir par abandonner la foi et même toute vie chrétienne, et ce n'est pas rare aujourd'hui, hélas. L'erreur opposée au découragement, c'est la présomption. Cette fois, c'est le contraire, on est trop sûr de soi. On compte surtout sur ses propres forces. Ce qui fait que la prière et les sacrements sont réduits au minimum, que l'on manque de prudence aussi par rapport aux occasions de tentation, par exemple l'usage d'Internet, les relations avec le sexe opposé, on se croit très fort, donc aucune prudence. Ceci s'appelle la tiédeur ou paresse spirituelle. Et les auteurs spirituels en donnent trois signes. D'abord la négligence dans la vie de prière, ensuite le refus des sacrifices demandés, et enfin la tendance à critiquer, à mépriser ceux qui sont plus fervents que nous. On dit qu'ils exagèrent, que c'est pas la peine d'en faire tant. Évidemment, ce sont des réflexions qui nous servent à justifier notre paresse et à nous y enfoncer. Alors on peut penser que la tiédeur n'est pas si grave dans la mesure où quand même on ne vit pas dans un état habituel de péché mortel. Mais n'oublions pas que dans la Sainte Écriture, Dieu, au livre de l'Apocalypse, dit qu'il vomit les tièdes. C'est pas rien. À Sainte Thérèse d'Avila, qui était pourtant déjà carmélite, mais c'était un Carmel relâché. Il n'y avait pas de choses graves, mais un Carmel qui vivait vraiment dans une très grande tiédeur. Eh bien, notre Seigneur apparut un jour à Sainte Thérèse en lui montrant la place qui lui était déjà prête en enfer si elle continuait à vivre dans cette tiédeur. À Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, qui aussi commença sa vie dans la tiédeur, notre Seigneur apparut un jour avec les blessures de sa passion en lui disant « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. » Il faut bien savoir que les tièdes se préparent un purgatoire long et rigoureux. Et en même temps, ils ne sont pas si sûrs que cela d'être sauvés, surtout dans le monde actuel où les tentations sont très fortes. Alors bien sûr, la tiédeur, c'est quelque chose qui nous guette tous sans exception. Les remèdes à la tiédeur, pour se reprendre, se ressaisir, sont en particulier l'examen de conscience, la confession plus fréquente et aussi, bon remède, une retraite spirituelle. La seconde forme de la présomption, plus dangereuse encore, c'est celle de quelqu'un qui vivrait dans le péché mortel habituel, dans une liaison qu'il ne devrait pas avoir, par exemple, et qui pense que de toute façon il sera bien sauvé parce que Dieu est bon. Alors attention, c'est dangereux, c'est une illusion. N'oublions pas cette parole de la Sainte Écriture, « L'arbre tombera du côté où il aura penché ». Arriver à se sauver quand on vit habituellement dans un état de péché mortel, cela relève du miracle. Comme serait un miracle un arbre qui serait penché et qui tomberait exactement de l'autre côté. Évidemment, le salut reste toujours possible. Par exemple, si une personne a beaucoup prié et fait pénitence pour soi, mais c'est quand même bien aléatoire et bien risqué de compter là-dessus pour son salut. En faisant l'application à la crise actuelle dans l'Église, Ne peut-on dire que, ne parlant plus de la nécessité de se convertir, faisant croire que tout le monde sera sauvé, quelle que soit sa manière de vivre et quelle que soit sa religion, eh bien la hiérarchie actuelle de l'Église met toute l'humanité dans un état dramatique d'illusion et de présomption qui ne peut que remplir l'enfer, hélas. Alors, quelle est la solution entre la présomption et le découragement ? Eh bien, l'Église nous la donne en ce temps de l'Ascension, en nous montrant notre Seigneur dans la gloire du ciel à la droite de son Père. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. C'est vers lui qu'il nous faut nous tourner. Quelle est la cause de tous nos échecs, de nos chutes ? C'est que nous nous appuyons trop sur nous-mêmes. Quel est donc le remède à tous nos échecs, à toutes nos chutes ? Eh bien, de nous appuyer davantage sur notre Seigneur. Et c'est là qu'arrive la vertu d'espérance. L'espérance ne consiste pas, attention, à attendre que les choses s'arrangent toutes seules. Il y en a qui pensent que c'est cela, l'espérance. Pas du tout. L'espérance, c'est une vertu qui vient sur notre volonté pour nous faire travailler, pour nous faire agir, justement, pour nous aider à faire notre devoir en nous appuyant, attention, sur la toute-puissance secourante de notre Seigneur. À l'opposé de celui qui a tout abandonné, celui qui a l'espérance chrétienne continue à faire coûte que coûte son devoir quotidien. Et à l'opposé de celui qui s'appuie surtout sur ses propres forces et qui met Dieu au second plan, celui qui a l'espérance chrétienne a pour devise « Dieu premier servi ». Et il puise toute sa force dans la prière et les sacrements. Notre espérance, c'est la toute-puissance de notre Seigneur qui nous permettra de vaincre tous les obstacles, toutes les difficultés de la vie, de faire tous nos devoirs. Voilà. Et si nous nous appuyons sur notre Seigneur, eh bien voilà, c'est le secret de la victoire. Il y a une phrase de saint Augustin qui est très importante ici, et que le Concile de Trente a même placée dans un de ses décrets. Dieu ne commande pas des choses impossibles, mais quand il commande, il t'exhorte à faire ce que tu peux, donc agissons. Ensuite, à demander ce que tu ne peux pas, et alors il t'aidera afin que tu puisses le faire. Le découragement est donc interdit, et le chrétien qui s'appuie sur la toute-puissance secourante de notre Seigneur sera toujours vainqueur. Aujourd'hui en France, l'Église célèbre la solennité de Sainte Jeanne d'Arc. Et ce qui s'est passé au temps de Sainte Jeanne d'Arc est une belle illustration justement de la vertu d'espérance. Le pays était dans une désolation extrême. Depuis 100 ans, il était ravagé par la guerre. Et il était sur le point de passer définitivement sous une domination étrangère. Il n'y avait plus aucun espoir du côté des hommes. Même le roi de France doutait de sa légitimité. Mais voilà, le peuple français a eu la vertu d'espérance. La guerre de 100 ans l'avait purifié. En France, on accomplissait avec soin ses devoirs envers Dieu et ses devoirs envers le prochain. Et alors, on eut le recours de s'appuyer sur notre Seigneur, d'implorer notre Seigneur. Des quatre coins du royaume, des prières, des processions, des pèlerinages avaient lieu sans cesse pour supplier le ciel. Et le cœur de Jésus a été touché. Et notre Seigneur nous a envoyé Jeanne. Elle a chassé l'envahisseur par des victoires absolument miraculeuses. Et elle a restauré la monarchie en faisant sacrer le roi à Reims. Mais attention, après avoir rappelé au roi de France qu'il n'était que le lieutenant du Christ, c'est-à-dire qu'il tenait la place du Christ, parce que le vrai roi de France, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et on peut dire cela de tous les pays. Et cela, ce rappel, c'est la mission essentielle de Sainte Jeanne d'Arc. Le pays avait été dans la ruine et dans la désolation pendant 100 ans, en châtiment du crime de Philippe le Bel, qui avait été le premier, on peut dire, à se rebeller contre la royauté sociale de notre Seigneur, en essayant de secouer l'autorité du souverain pontife. 100 ans de châtiment. Alors, Sainte Jeanne d'Arc voulait dire par là, si vous voulez la paix et la prospérité en France, reconnaissez notre Seigneur comme le roi de France et mettez ses lois dans vos lois. Sinon, la France retombera dans la désolation. Vous pouvez lire ici le livre de Monseigneur de Lassus, La mission posthume de Sainte Jeanne d'Arc. Et aujourd'hui, dans la situation bien pire où nous nous trouvons pour avoir rejeté justement notre Seigneur depuis plus de 2 siècles, ne disons pas que le ciel est sourd à nos prières. Parce que la situation est encore plus préoccupante, ce n'est pas seulement une sainte et une grande sainte que le ciel nous a envoyée. C'est la reine du ciel en personne qui s'est déplacée, qui est venue dans tant d'apparitions au XIXe siècle, dont le couronnement fut Fatima. Et à Fatima, la Sainte Vierge nous a indiqué le moyen de repousser les forces du mal et de surmonter les épreuves de notre temps. Et il n'y a rien à ajouter à ce qu'elle a dit. Nous avons la solution pour aujourd'hui. Quelle est-elle, cette solution? Écoutons bien, parce qu'elle est à la portée de tout le monde. L'accomplissement de notre devoir quotidien et l'offrande de cet effort en réparation de nos péchés et pour la conversion des pécheurs. Ceci, uni à la prière du rosaire et à la dévotion au cœur immaculé de Marie, en particulier la dévotion réparatrice des premiers samedis de chaque mois. Au rosaire, la Sainte Vierge a même donné une efficacité nouvelle, proportionnée aux difficultés actuelles, de telle sorte, et elle donne les détails, qu'il n'y a aucun problème matériel ou surtout spirituel, personnel, familial, national ou même international que nous ne puissions résoudre par la prière du Saint-Rosaire. La Sainte Vierge entend ici le chapelet, et spécialement le chapelet quotidien. Elle y a insisté dans chacune de ses apparitions, mais pourquoi pas le rosaire entier, 3 chapelets par jour, dans les grandes difficultés. Voilà les moyens infaillibles qui viennent fortifier aujourd'hui notre espérance. Alors plus que jamais, soyons zélés pour l'accomplissement de tous nos devoirs et en même temps appuyons-nous sur le secours de Dieu et spécialement sur le rosaire. Voilà aujourd'hui notre espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.